de Dieu se trouve dans Actes 12, 1 à 19. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Ces nuits-là, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Mais il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Mais lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple lui attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Jacques, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats, qui était donc devenu Pierre. Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Puis il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Prions pour voir écouter la parole. Dieu le Père, moins les lèvres de ton serviteur. Donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom Jésus. Amen. Prière pour le serviteur du Seigneur. Lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est gloire, de même qu'il fut glorifié par son Fils, il l'est par les saints. Même si le monde entier lui appartient, il commanda à l'humanité de le dominer. Cela signifie qu'il lui octroya une volonté. Par conséquent, que ce soit pour les œuvres de l'esprit ou de la chair, on ne peut être béni de Dieu à moins de faire usage de sa volonté. La volonté devient la conviction ou la foi agissante. De même qu'on fait monter les eaux thermales qui coulent sous terre, la volonté est la force puissante qui exalte l'action. Autrement dit, la prière est la foi agissante. Même les serviteurs du Seigneur sans la foi agissante ne peuvent expérimenter la bonne puissance de Dieu, parce que seule la volonté permet de s'en approcher. Ne pas prier, c'est seulement être impuissant. Seule la prière permet de goûter aux signes. Même les œuvres de Dieu requièrent la prière. L'absence de prière signifie ne pas mettre en pratique. Même les serviteurs du Seigneur doivent prier. Sans prière, il n'y a que l'impuissance. Même ceux qui ont une bonne foi doivent prier. Ne pas prier, c'est renoncer. Prions pour les œuvres de Dieu, pour l'Église, le corps du Seigneur, ainsi que pour les travaux spirituels. Dieu demeure dans la gloire et c'est le Dieu qui est glorifié. Il est rempli de la gloire du trône céleste et a donné cette gloire à son Fils. Et ce dernier nous l'a aussi montré. Et fait en sorte que nous puissions, vous et moi, la vie de la foi consiste à connaître Dieu. Quand les fidèles viennent pour la première fois à l'Église, ils ne connaissent qu'eux-mêmes. Ils veulent résoudre les problèmes, leurs problèmes immédiats de la vie quotidienne. Et ils se disent, si je peux régler mes problèmes, ils ne savent rien de Jésus. C'est par une force religieuse pour pouvoir être consolés ou pour résoudre leurs problèmes qui sont venus à l'Église. Donc, ils veulent régler leurs problèmes personnels, ceux de la famille, ceux d'environnement. En fait, donc, c'est par une foi conditionnelle qu'ils sont venus. Mais avec le temps, leur foi grandit et ils pensent à Dieu. C'est pour Dieu. Leur foi étant orientée vers Dieu. Ils veulent honorer Dieu. C'est comme les petits-enfants qui ne comprennent pas leurs parents, qui ne pensent, les enfants qui ne pensent qu'à eux, ils demandent à manger, ils demandent des jouets, ils ne pensent qu'à eux, à leurs objets. Mais quand ils grandissent, ils se rendent compte de la présence de leurs parents. Et puis, ils ressentent le besoin de les servir et de les honorer. Ils ont ce sentiment de piété filiale et de par leur propre volonté, ils honorent leurs parents. Donc, vous-même, vous pouvez discerner quel est le niveau de développement de votre foi. Certains viennent à l'Église. Ils prient et supplient pour leurs problèmes urgents. Et puis, si ça ne marche pas, ils ne portent rancune à l'Église, à Dieu. Donc, même s'ils sont venus à l'Église depuis longtemps, c'est une foi d'enfant qu'ils ont. Mais quand la foi grandit, on veut se sacrifier pour le Seigneur, on veut vivre pour lui, on veut mourir pour lui. On se demande comment plaire au Seigneur. Donc, quelle est notre foi vis-à-vis du Seigneur? Quel doit être notre amour? Nous devrions être capables de tout sacrifier pour lui. Nous mourrons tous un jour ou l'autre. La mort n'est pas quelque chose de spécial, ce n'est pas un choc. C'est simplement une question de temps. Mourir un peu plus tôt ou un peu plus tard. Tout le monde meurt. Mais la question est de savoir ce qu'adviendra de nos âmes. Allons-nous penser simplement à notre chair corruptible? Allons-nous chercher quoi manger, quoi vivre pour nos corps temporels? Ou alors, allons-nous chercher ce qui est éternel, ce qui est perpétuel pour nos âmes? C'est pourquoi Jésus nous a demandé de ne pas chercher quoi manger, quoi boire. Si vous aviez un peu de foi, eh bien vous chercheriez le royaume de Dieu et sa justice. Pour la victoire du royaume de Dieu, pour la réussite du royaume de Dieu, c'est ce que vous demanderiez dans vos prières. Est-ce que vous voulez la satisfaction immédiate sur cette terre, et pas plus? Ou alors, voulez-vous obtenir le royaume éternel de Dieu? C'est le choix qu'il faut faire. Le royaume éternel. Jésus nous a dit, à quoi sert de gagner le monde entier si tu perds ton âme? En d'autres mots, quel est notre espoir? Notre espoir doit viser à l'éternel. J'ai dit plusieurs fois à mon fils et à mon petit-fils, ceux qui font de l'alpinisme, bien sûr, c'est un bon sport, mais je leur ai demandé de ne pas pratiquer ce genre d'activité. On ressent une joie intense après avoir conquis ces montagnes. C'est pour cette joie physique intense qu'on risque sa vie. Il n'y a aucune raison, ça ne vaut pas la peine. Pour un plaisir physique, il ne faut pas être insensé pour risquer sa vie. Parce que nous devons viser à ce qui est plus grand. Dieu et moi, Dieu a fait en sorte que nous possédions un plus grand monde, un monde qui n'est pas terrestre, non pas le monde qui est sous le ciel, sous le soleil, mais il a fait en sorte que nous puissions vivre sous sa gloire. Nous pouvons voir le soleil quand nous sommes dans la chair, mais un jour viendra où le soleil même perdra de sa clarté. Mais Dieu veut que nous vivions sous sa gloire. Et c'est ça notre rêve. Quel est le grand but de vos œuvres, de votre dédication? Est-ce pour votre chair? Ou alors, est-ce pour ce qui est éternel que vous suez? Les gens ne pensent pas à ce qui est éternel par manque de foi. Parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Si vraiment ils avaient foi en Dieu, ils ne n'erreraient pas en confusion. Comme on peut voir dans les versets que nous avons lus, le travail de Dieu n'est pas un miracle. Pierre n'est pas sorti en un clin d'œil de prison. C'est un ange qui lui a dit ce qu'il fallait faire et l'a fait sortir avec des étapes bien précises. Ce n'était pas un miracle. C'est un signe, le signe que l'ange avait travaillé pour Pierre. C'était le moment où les persécutions étaient très sévères. Parmi les 12 disciples de Jésus, le frère de Jean, Jacques, avait été décapité. Et c'est en ce temps très dur que les disciples ont prêché l'évangile. Ils prêchaient que Jésus était le roi des rois, le Messie qui allait revenir. Donc on a emprisonné Pierre. Et tous les membres de l'Église se sont réunis pour prier. Lisons verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche la prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Quand j'ai planté l'église Sanglac, je faisais répéter le slogan suivant. Le pasteur va prier à la montagne et les fidèles prient à l'église pour lui. Quand le pasteur avait des croisades à mener ou allait prendre du repos, je demandais aux fidèles de prier pour moi. Donc c'était un travail de coopération. Quand j'ai mené le pastorat à la campagne, dans le passé, quand j'allais mener en tant que ministre des croisades, les fidèles priaient tous les soirs et même des jeunes former des équipes de prières de relais pendant 24 heures. Quelqu'un priait 2 heures, un autre donc priait 2 heures et ainsi de suite. Et ces prières ont été très efficaces. Combien le verset que nous avons lu est beau. Jacques était déjà mort. Et c'était le tour de Pierre. Et le garde a été exécuté parce que il avait laissé échapper Pierre. Donc c'est à ce point que les temps étaient durs et tout ce que l'Église pouvait faire, c'était recevoir l'aide de Dieu. L'Église se débattait et prier corps et âme pour Pierre. Constatez la beauté du contenu du verset 5. Quand je vais à l'étranger, je ressens vivement la puissance de la prière de mes fidèles. La semaine dernière, je suis allé à l'étranger et je suis rentré hier soir. Et je ressens vraiment que le monde entier a besoin de béret. L'Église prie avec un sens et le pasteur va. C'est ainsi que quand on prie en coopération, cela produit de grandes œuvres. La prière, c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Et c'est le moyen qu'il utilisait constamment dans sa vie publique, ce dont il dépendait. C'est le commandement qu'il nous a donné. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin, je prêche chaque semaine sur la prière. Vous pouvez peut-être vous dire que je prêche toujours la même chose. Bien sûr, dans tous mes sermons sur la prière, je parle toujours de Dieu, du Fils, du Saint-Esprit, mais comme les aiguilles d'un parapluie sont orientées dans une direction différente, de même que les parties d'une horloge sont diverses et ont été assemblées. Même chose aussi pour une voiture. Cette année, nous essayons de connaître le principe de la prière montré dans la Bible, la vérité de la prière. Et c'est l'année dernière où j'ai rédigé le résumé de ces 52 sermons sur la prière. Pour vous, ces sermons peuvent se ressembler. Mais ce n'est pas vrai. Supposons qu'il y a une partie de l'engin de la machine qui manque, eh bien la voiture peut ne pas rouler et tomber en panne. Donc si vous ratez un sermon, ça peut constituer une faiblesse pour vous. C'est pourquoi il faut écouter attentivement. Qu'est-ce que la prière? Jésus nous a demandé fortement, si tu pries en mon nom, le Père sera glorifié. Jean 14, 13, 14. Si tu pries en mon nom, le Père sera glorifié. Le nom de Dieu, Jésus. Si tu pries au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus, le Père sera glorifié. Et moi, j'exécuterai. Donc le Père est glorifié et Jésus, lui, fera ce que tu as prié. Regardons Jean 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si tu pries au nom Jésus, le Père sera glorifié. Et moi, si tu pries en mon nom, je le ferai. Est-ce que c'est tout? Et quand le Seigneur commence à agir, que font les anges célestes? Regardons Apocalypse 8. Apocalypse 8. Versets 3 et 4. Apocalypse 8, 3, 4. Lisons. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Quand Jésus commence à travailler, les anges célestes bougent. Ils prennent la prière pour la faire parvenir à Dieu. Que sont les anges? Hébreux 1. Qui sont les anges? Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tous les anges, pas seulement une partie, sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont sauvés. Donc quand nous prions au nom Jésus, Dieu est glorifié. Jésus commence à exécuter et les anges sont mobilisés pour prendre la prière et la faire parvenir dans les cieux. Ces anges ont été envoyés pour aider les sauvés. Regardez maintenant Marc 11. Marc 11. Marc 11, 23-24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quelle est la conséquence des œuvres des anges? C'est que même une montagne peut être jetée dans la mer. Même une montagne peut être bougée. C'est ainsi que les signes arrivent. Donc, la prière est semblable à un tremblement de terre. La prière, c'est ce qui fait bouger les cieux, le monde des esprits. Quand vous allez à l'étranger, cela arrivait fréquemment en Corée aussi pendant la guerre. Il y avait beaucoup de mendiants dans les rues. Quand une voiture s'arrête au feu, ces gens tendent la main pour demander de l'argent. Moi, j'ai voulu donner un billet d'un dollar. Et le chauffeur dit, ceux-là ne connaissent même pas la valeur du dollar. La prière, ce n'est pas mendier. Non, la prière, c'est ce qui fait bouger les cieux. La prière, c'est ce qui fait bouger le monde des esprits. La prière fait chanceler le monde des esprits. La prière, c'est ce qui fait bouger le monde des esprits. Prier, ce n'est pas vouloir satisfaire ses besoins immédiats. C'est pas ça la prière. Pendant que je prie, les cieux bougent. Et Dieu est glorifié. Puisqu'on utilise son nom, Dieu est glorifié. Et le Seigneur Jésus, quand il commence à travailler, les anges viennent, prennent la prière des saints et la font parvenir à Dieu. Et les autres anges travaillent pour que cette prière soit exaucée. Et c'est ainsi que même les montagnes bougent. C'est pourquoi, ne doute pas, il faut attendre que ta prière soit exaucée. Et qu'advient-il de Satan? Satan, lui, se met en état d'alerte. C'est la panique. Les démons sont tendus et ne pourront que partir. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier. Résiste au diable et il s'enfuira. Quand on déracine un arbre, il se dessèche, les démons sont tendus et arrêtent leurs activités. Ils ne peuvent que partir. C'est le monde des esprits qui est ébranlé. Donc, il ne faut pas prier comme un mendiant qui n'a aucun droit. Il faut se rendre compte que quand j'utilise le nom de Dieu en priant, une œuvre considérable est ébauchée. Avec une seule clé, on peut faire bouger un camion géant. Eh bien, la prière est semblable à la clé céleste et fait mettre en marche les cieux. La question est de savoir à quel point nous avons la foi. Puis-je glorifier Dieu par ma prière? Comment? Puis-je utiliser le nom de Dieu? Le nom Jésus, c'est celui de Dieu. Donc, si tu pries au nom Jésus, Dieu est glorifié. Et si Dieu est glorifié, alors, pas de problème. Le Seigneur Jésus fera, il agira. Et alors, les anges célestes feront parvenir cette prière à Dieu et feront tout pour que la prière soit exaucée au point de faire bouger une montagne. Vous avez vu vous-même par les versets, c'est ça la prière. Prenons le point maintenant. Et répétons trois fois, mon âme fait bouger les cieux. Mon âme fait bouger les cieux. Mon âme fait bouger les cieux. Pour la mission, pour Béret, j'ai prié depuis 1962. Je me suis dit que je devais prier. Et je sens que les anges m'accompagnent dans toutes les parties du monde. La prière, c'est ce qui fait bouger le monde des esprits. Dieu est glorifié, le Seigneur Jésus commande. Les anges sont mobilisés et se mettent en activité. Et il faut avoir cette foi. Il faut avoir cette foi. Maintenant, fermez les yeux. Reconnaissez la valeur de la prière. Valorisez la prière. Ne priez pas comme un mendiant qui n'a aucun droit. Faites le genre de prière, la clé qui permet de d'ébranler le royaume des cieux, la clé qui ouvre le monde des esprits. Il faut rendre grâce de la foi que Dieu, de cette foi donnée par Dieu. Répétons, mon âme fait bouger le monde des esprits. Mon âme fait bouger le monde des esprits. Mon âme fait bouger le monde des esprits. Donc il ne faut pas se décourager quand on a prié une ou deux fois. Ça n'a pas d'importance. Il faut prier jusqu'à que... Il faut attendre jusqu'à ce que la prière soit exaucée. Prions maintenant pour que notre prière soit exaucée. Quand un bébé crie, toute la famille est en alerte et se demande ce qu'il a. C'est plus que ça, la prière. La prière, c'est ce qui émeut Dieu, le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait travailler les anges et c'est ce qui terrifie les esprits du mal. La prière, c'est ce qui fait bouger même les montagnes. Écoute ma prière.